Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. On n'aura pas de mal à imaginer que l'initiative ait pu provoquer le malaise à l'ONU. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement des talibans a demandé à s'exprimer au nom de l'Afghanistan devant l'Assemblée générale des Nations unies. Demande trop tardive pour être prise en compte, a répondu un responsable de l'ONU. Mais cette situation illustre la question qui se pose. Un mois et demi après la prise de Kaboul par les insurgés, quelle diplomatie menée à l'égard des talibans ? La discussion est-elle indispensable en raison de l'urgence humanitaire actuellement en Afghanistan ? Mais comment discuter sans légitimer ? Et qui pour discuter ? Ce sont nos questions ce soir dans le débat du jour. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, Jean-Yves Berthaud à mes côtés en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller, ancien conseiller politique de la mission spéciale de l'ONU en Afghanistan en 1997. Vous avez été chef de la mission diplomatique française à Kaboul entre 1998 et 2001. Et vous êtes l'auteur du livre « Déjeuner avec les talibans, révélation d'un diplomate ». Face à vous, dans ce studio, Frédéric Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business. Vous êtes l'auteur du livre « Atlas des frontières ». Et puis en ligne avec nous ce soir, Frédéric Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge en France, et auteur du blog L'humanitaire dans tous ses états. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, ma première question, Jean-Yves Berthaud, à quelle équipe la communauté internationale a-t-elle affaire aujourd'hui en Afghanistan ? Le gouvernement a été annoncé au début du mois de septembre, donc quelques semaines après la prise de Kaboul. L'Union européenne avait posé comme condition à une éventuelle reconnaissance diplomatique un gouvernement inclusif et représentatif. C'est pas vraiment ce qui ressort du gouvernement qui a été annoncé au début du mois.
Le gouvernement intérimaire qui a été constitué début septembre, après plusieurs semaines de tractations très compliquées, parce que le mouvement taliban n'est pas du tout un mouvement unitaire, ce gouvernement reflète en fait la composition traditionnelle des talibans tels qu'ils étaient il y a 25 ans. Il y a un certain nombre des mêmes personnes qu'on retrouve aujourd'hui. Par exemple, le Premier ministre était gouverneur de Kandahar et donc c'était un très proche du Mullah Omar, le commandeur des croyants de l'époque, le chef suprême. On a aux affaires étrangères également quelqu'un de très hardliner.
Les talibans purs et durs, on pourrait dire.
Les talibans purs et durs. Et en même temps, pour la plupart, ce sont des docteurs de la foi plus que ce ne sont des combattants. Mais il existe quand même au sein de l'appareil d'État, disons du noyau principal de l'appareil d'État, une tendance qui, elle, est plus extrémiste, disons. De toute façon, il s'agit de fondamentalistes, mais on ne doit pas confondre le fondamentalisme et l'extrémisme islamiste. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Les talibans, ce sont des nationalistes qui veulent qu'on les laisse tranquilles chez eux avec leur interprétation très rigoureuse et archaïque des textes sacrés, et ils ne sont pas du tout tournés vers le djihadisme. Donc ce sont ces gens-là qui on va avoir affaire. Alors maintenant, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit ?
Bon, alors, c'est la question qu'on va poser, mais en tout cas, plusieurs de ces talibans qui figurent au gouvernement figurent sur des listes de sanctions de l'ONU, puisque la question est de savoir les relations avec la communauté internationale. Déjà, c'est compliqué pour cette raison-là.
Il s'agit de ce clan Haqqani, c'est toute une famille qui a été un peu le bras armé des talibans dans la reconquête qu'ils ont menée depuis des années contre le gouvernement démocratiquement élu. Et les talibans avaient besoin de gens qui soient versés dans l'art des armes, parce qu'eux étaient surtout versés dans l'art de réciter le Coran par cœur. Donc cette bande-là, en fait, qui a été entraînée par le Pakistan, est maintenant au pouvoir. On a le ministre de l'Intérieur, on a des ministères moins importants, mais tout de même essentiels d'un point de vue social.
Il y a un ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice.
Alors, il y avait, c'est le modèle saoudien. En Arabie Saoudite, vous avez la même structure et la même idéologie. Et donc, en fait, leur idéal, leur paradis sur Terre, c'est l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'ils veulent reproduire. Alors, on peut parler avec eux, puisque bon, j'en suis le témoin, et j'en ai été l'acteur il y a 25 ans. Et ça a duré plusieurs années de discussions, parce que la France était à l'époque le seul pays occidental à discuter de façon intermittente, mais réelle, avec les talibans.
Parce que vous étiez, on le précise, chef de la mission diplomatique française à Kaboul entre 1998 et 2001, donc sous le règne des talibans,
qui
ont été au pouvoir entre 1996 et 2001.
Il y a un parallèle ?
Les situations sont les mêmes aujourd'hui ?
La situation a profondément évolué parce que la situation est en train de s'internationaliser plus que ça n'était le cas il y a 25 ans. On voit bien que aujourd'hui, on a l'influence de la Chine qui n'était pas à un tel degré il y a 25 ans. La Chine qui souhaite sans doute remplacer les Occidentaux sur le plan de la manne commerciale et qu'ils pourraient déverser. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Parce que si nous avons une relation qui s'établit avec le temps avec le gouvernement des talibans pour leur apporter des ressources dont ils auront besoin pour venir en aide à leur peuple.
Parce que si c'est l'enjeu, évidemment, l'urgence humanitaire, et on va en parler dans ce débat.
Considérable. Je veux dire, si rien n'est fait, si les vannes ne sont pas ouvertes, le peuple va mourir de faim et très vite.
C'est une des raisons absolue. De l'urgence de la discussion avec les talibans.
C'est une des raisons, mais on a aussi des raisons stratégiques. On a aussi, naturellement, un intérêt particulier à être présent, même si c'est de façon marginale. On n'est pas obligé d'avoir des ambassades très nombreuses. On peut avoir des ambassades croupions, mais avec des gens qui réfléchissent et qui connaissent le terrain et qui peuvent vraiment étudier les choses. Parce qu'on a besoin de savoir ce qui va se passer. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est répéter l'erreur que nous, Occidentaux, avons commise à l'époque, pendant toute cette période des talibans. Nous avons été très légitimes scandalisé par un certain nombre d'exactions, en particulier la condition féminine, des choses qui sont révoltantes évidemment pour tout occidental. Et du coup, l'influence de tous ces lobbies qui légitimement combattaient tous ces travers a fait que nous avons voté des sanctions en 99 puis en 2000. Et au fur et à mesure que nous nous braquions contre le régime des talibans, nous les avons radicalisés. Alors, on peut dire ils se sont radicalisés, mais je crois pouvoir dire, à travers mon expérience, que nous avons quand même pas mal contribué à les radicaliser. Ne refaisons pas la même chose. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, évidemment, d'avoir vis-à-vis des talibans la moindre complaisance. Il faut être très ferme sur nos valeurs, bien entendu, mais il faut aussi comprendre que nous n'avons aucun intérêt, et même d'un point de vue strictement égoïste, nous n'avons aucun intérêt à leur radicalisation.
Alors, vous avez bien posé le débat, je pense, Jean-Yves Berthaud, fort de votre expérience, évidemment, en tant qu'ancien conseiller politique de la mission spéciale de l'ONU en Afghanistan et chef de la mission diplomatique française à Kaboul, sous le règne des talibans. Frédéric Ancel, je voudrais ajouter que ce mardi, les talibans ont annoncé qu'ils allaient temporairement adopter une constitution qui date de 1964, qui avait accordé aux femmes, parce que c'est aussi un des points importants, la question des femmes, le droit de vote en Afghanistan, mais ils comptent exclure tous les éléments qui sont contraires à leur interprétation de la charia. Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Yves Berthaud par rapport à les talibans en 1996-2001, ne faisons pas les mêmes erreurs. Que pensez-vous des premiers pas des talibans version 2021 depuis le 15 août, la prise de Kaboul? Et qu'est-ce que cela augure, parce que c'est le cœur de notre débat, des futurs échanges avec la communauté internationale et de la manière dont ces échanges doivent être menés?
Je dirais que ces premiers pas sont aussi intéressants que votre première question. Vous avez posé à monsieur l'ambassadeur la question de savoir qui sont ces nouveaux maîtres du pays, ces nouveaux talibans en quelque sorte. C'est très fondamental, mais des hommes qui ne sont pas forcément nouveaux peuvent faire des choses nouvelles. C'est-à-dire que on assiste à une volonté d'être plus pragmatique. Je n'ai pas dit plus modéré. Je n'ai pas dit plus pro-occidental. J'ai dit plus pragmatique. Pourquoi ? Parce que la situation, elle a radicalement changé. On n'est plus en 96 et je crois que les talibans, j'allais dire d'aujourd'hui, même ceux qui étaient déjà partie prenante de ce mouvement naguère et qui sont restés effectivement, et je rejoins ce qu'a dit l'ambassadeur Berthaud, des fondamentalistes, comprennent au moins quelque chose. C'est que dans la région, alors les Américains sont partis, et les Occidentaux, de manière générale, sont partis. Mais dans la région, deux puissances restent, et surtout l'une, celle qui reste, c'est la Russie, même si ce n'est pas direct et si la frontière de la Russie n'est pas ne jouxte pas l'Afghanistan, mais enfin à travers le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, l'influence russe, elle est là quand même. Et puis surtout, évidemment, ça vient d'être mentionné, la Chine. Et je suis tout à fait convaincu que les chefs talibans d'aujourd'hui, même si pour certains ce sont on les retrouve en quelque sorte, ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Je suis tout à fait convaincu qu'ils savent à quel point le régime chinois n'aura strictement aucune espèce d'humour ni de patience. Avec une éventuelle volonté des talibans, bah tiens, au hasard, de libérer, alors je mets ça entre guillemets, hein, leurs frères musulmans, en deux mots, hein, leurs frères musulmans sunnites ouïghours, vivant un sort extrêmement difficile. Hein. Et d'ailleurs, on a déjà eu, avant même la prise de contrôle totale du pays par les talibans, une rencontre tout à fait officielle, à un niveau très élevé, entre le régime chinois et donc le nouveau régime taliban. Ça, c'est le premier point. On peut être les mêmes, en quelque sorte, et faire une politique différente entre nous, soit dit, une toute petite parenthèse.
Ça veut dire que c'est pour vous suivre, que c'est la Chine et la Russie qui vont avoir le lead, un petit peu, qui vont mener ces possibles échanges avec les talibans.
Alors, échanges, de toute façon, oui, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'échanges aujourd'hui et demain entre la Chine et les talibans qu'entre les Occidentaux et les talibans, par exemple. Ça, j'en suis convaincu.
Et quel est le danger de mener ces discussions du coup, que les Occidentaux se fassent damer le pion, je dirais.
Ah oui, ah bah de toute façon, je pense que pour le coup, sur le plan à la fois politique et commercial, et notamment politique parce que commercial et infrastructurel et logistique, je pense que de toute façon, les Chinois sont en train de tenter de pénétrer l'Afghanistan. Alors, avec une nuance, la route de la soie en Afghanistan, avec les talibans au pouvoir, ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, que via d'autres chemins, en quelque sorte. Mais la Chine, comme vous le dites, va prendre, j'en suis tout à fait convaincu, comme ailleurs dans la région, pas partout, mais presque partout, le lead. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, les talibans d'aujourd'hui ont cruellement besoin, comme ça a été rappelé aussi, de, au sens noble et large du terme, de social. S'ils ne veulent pas... Regardez ce qui se passe en Iran. Le régime iranien craint comme la peste un printemps iranien, bien plus d'ailleurs qu'à ses frontières, des éventuelles dissensions avec les pays arabes, peut-être même avec Israël. Ce que des régimes craignent, beaucoup de régimes, et en particulier le régime taliban aujourd'hui, ce serait une instabilité ou une révolte, en dépit de leur répression, hein, y compris chez des gens très conservateurs, très traditionnalistes, musulmans, et y compris au sein des fameux et puissants Pashtuns. Pourquoi ? Parce que on ne pourrait pas nourrir ces gamins. C'est en France, d'où on parle aujourd'hui, hein, on est 67 millions de politologues, hein, mais on pense rarement social, et on se dit que décidément, que ce soit en Iran, en Afghanistan, en Israël, chez les Palestiniens ou que sais-je encore, les gens, tous les matins, se lèvent avec un couteau entre les dents en tentant de savoir ce que l'ennemi réel ou supposé va faire et comment on va pouvoir le juguler. Les gens pensent d'abord à se nourrir. Et si les talibans ne parviennent pas à convaincre leur population, enfin à convaincre très concrètement, à démontrer à leur population que celle-ci va vivre mieux que pendant les 20 ans de présence, on va l'appeler comme ça pudiquement, occidentale, ah oui, c'est difficile.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, surtout. 9 ménages sur 10 qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui,
c'est pas le cas aujourd'hui, alimentaire bien mondial. Sûr, mais je finis juste ma phrase, bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et pour cause.
Et c'est ce qui pose la question d'ailleurs de cette diplomatie nécessaire.
Et ben voilà. Et d'un certain pragmatisme, dont je pense, mais peut-être avec trop d'optimisme, qu'il va jouer, pas tellement parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui seraient devenus modérés, mais parce que ces gens-là souhaitent maintenant rester longtemps au pouvoir, et pour cela, ils auront besoin d'une manière ou d'une autre d'une ouverture vers l'Occident et la Chine.
Jean-Yves Berthaud, rapidement, après on va passer la parole à Frédéric Joly, c'est intéressant qu'il nous parle de la situation humanitaire en tant que porte-parole du CICR.
Tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les Afghans ont connu la guerre civile depuis 43 ans. Donc il y a une immense fatigue de cette situation-là. Et donc, quitte, évidemment pour les populations des villes, frottées à l'Occident, ce sera plus difficile à accepter pour des raisons d'ordre social. Mais pour une grande partie de la population, le joug des talibans, les gens vont s'y résigner. Et les talibans, au fond, ce qui n'a pas changé, c'est la référence idéologique au Coran, et rien que le Coran et tout le Coran.
Mais l'intervention des Occidentaux, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce qu'elle n'est pas plus souhaitable justement pour la population qu'une intervention, ou en tout cas un rapprochement de la Chine, de la Russie? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus à craindre?
C'est évident, mais j'ajouterais à la Chine et à la Russie le Pakistan, qui est l'acteur principal en Afghanistan. Et c'est lui qui a fait le gouvernement tel qu'il est. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler avec eux sans doute, à un moment ou à un autre. Mais actuellement, on ne sait pas encore à qui on va parler. Ils ont nommé un gouvernement intérimaire. Il faut être bien conscient de ça. Donc tout ça est en train d'évoluer. Un véritable gouvernement plus ou moins définitif ne pourra être annoncé qu'après qu'il y a eu un grand conseil tribal qui se réunira, qu'on appelle l'Oyajirga. Et après ça, on verra quelles sont les tendances. Mais pour le moment, le Pakistan pousse ses pions parce que le Pakistan a pour obsession que l'Afghanistan ne puisse pas être une sorte d'allié de l'Inde, que le Pakistan ne se trouve pas encerclé entre l'Inde et l'Afghanistan. Et pour cela, le Pakistan cherche par tous les moyens un pouvoir faible et divisé. Or, le peuple afghan a hâte d'avoir un pouvoir unifié qui lui permette de vivre enfin en paix et de chercher les voies de la prospérité, parce que le pays est capable d'atteindre un jour la prospérité. Il a toutes les ressources pour ça.
Et tout le monde se bouscule au portillon parce qu'effectivement, il y a des enjeux, vous le dites bien, géopolitiques de ce rapprochement avec les talibans. Frédéric Joly, on va enfin vous donner la parole, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en France. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que vos équipes ont accès à ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul, en Afghanistan? Depuis le 18 août, le FMI, le Fonds monétaire international, a suspendu les aides à l'Afghanistan jusqu'à ce que, justement, et c'est le cœur de notre débat, il y ait une clarté au sein de la communauté internationale sur la reconnaissance du gouvernement, je cite le FMI. Quelle situation vous pouvez dire sur place?
Ce que je puis dire déjà, c'est que le CICR reste et est toujours resté en Afghanistan, y compris à la période des talibans dans les années 90, qu'il maintient toutes ses opérations actuelles, qu'il maintient tous ses hôpitaux, toutes les structures de santé qu'il gère à travers tout le pays. Et j'entendais Monsieur Berthaud, Monsieur Ancel parler finalement d'une diplomatie pragmatique. Le pragmatisme, c'est un peu l'ADN du CICR qui travaille dans toutes les zones de guerre, et que bien évidemment, pour pouvoir atteindre notre objectif strictement humanitaire, atteindre les victimes, il faut pouvoir parler à tous ceux qui sont les acteurs, soit de la violence, les porteurs d'armes. Bref, c'est une négociation permanente que le CICR, ou qu'il travaille en zone de guerre, maintient avec tous les combattants. Donc le CICR a bien évidemment décidé de rester. Tout simplement, un exemple, toute l'orthopédie en Afghanistan, et on sait qu'elle est très importante compte tenu de générations de mines antipersonnelles, d'engins non explosés, d'engins explosifs improvisés, etc. Vous avez énormément d'amputés en Afghanistan, et bien dans les 7 centres orthopédiques CICR, et bien passent toutes les personnes qui ont besoin d'un appareillage et d'un suivi. Au premier semestre, mes collègues me transmettaient de Kaboul tout à l'heure, et bien au premier semestre, le CICR a suivi 80 000 patients amputés, dont 14 000 femmes. Les besoins humanitaires sont colossaux, ils ne datent pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans, comme soulignait Monsieur Berthaud, que la situation est extrêmement préoccupante. Et entre les moments d'intensité active des hostilités, il y a aussi tous les problèmes sociaux qui viennent se greffer. Je parlais des femmes à l'instant, par exemple, amputées. Souvent, elles sont chefs de famille parce qu'elles sont veuves relativement jeunes, et que donc, il faut pouvoir assurer, pérenniser un foyer et élever des gamins, etc. Donc, pour résumer, le CICR est présent avec ses 1800 collaborateurs dans tout l'Afghanistan et offre toute la palette, si je puis dire, opérationnelle, qui va de la visite en détention, de la gestion des secours d'urgence, de l'évacuation des dépouilles mortelles quand c'était, par exemple, l'intensité des combats, ou encore dans l'accueil en urgence de blessés des combats, jusqu'à la sécurité économique, les ingénieurs sanitaires qui remettent en eau certains quartiers de certaines villes après des combats, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour permettre à la population d'avoir suffisamment d'eau. Bref, une palette extrêmement large. C'est pas l'humanitaire qui va régler le problème de l'Afghanistan, sinon ça se saurait, c'est bien le politique. Mais en attendant, il faut qu'il y ait un espace humanitaire qui soit respecté et donc négocié avec tous ceux qui ont finalement les clés qui nous permettent de pouvoir accéder aux victimes. Donc c'est aussi une négociation permanente, négociation, diplomatie humanitaire que mènent pied à pied les collègues sur le terrain, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, en Syrie, au Yémen, en République démocratique du Congo.
Merci Frédéric Joly pour ce témoignage intéressant sur la situation concrète en Afghanistan. Frédéric Ancel, c'est le politique qui doit prendre la main, nous dit Frédéric Joly. Mais comment parler aux talibans aujourd'hui? Comment discuter sans légitimer le pouvoir?
Discuter avec le
discuter
pouvoir.
Discuter ou avoir des relations diplomatiques?
Discuter avec le pouvoir sans le légitimer par la discussion même, par la négociation même, c'est extraordinairement compliqué. Ça, si vous avez une solution, alors là, vous me la donnez, parce que à partir du moment où vous discutez, alors d'abord, il faut le faire.
Alors peut-être qu'il faut légitimer les talibans. Faut-il légitimer les talibans?
Non, mais là, il y a quand même une. Pardonnez-moi, mais bon, comme je,
vous finissez
comme je l'ai fait concrètement, donc là, je peux dire comment on peut le faire. C'est-à-dire que bon, à l'époque.
Mais vous avez dit que les choses avaient nettement évolué, c'est pour ça que
non,
vous avez la question
à Frédéric Ancel. C'est très simple, sur le plan technique, sur le plan de la technique diplomatique, au lieu de dire qu'on a une ambassade et un ambassadeur, on dit qu'on a un chargé d'affaires. C'est-à-dire qu'il ne présente pas les lettres de créance au chef de l'État, ce qui est une cérémonie tout à fait traditionnelle qui vaut reconnaissance. Donc c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. Je suis arrivé en janvier 97. Avec mes bagages, je me suis installé à l'ambassade et j'étais en qualité de chargé d'affaires. J'ai dirigé l'ambassade pendant 3 ans. C'était une reconnaissance de facto qui n'est pas entérinée par la remise de lettres de créance. C'est une subtilité diplomatique. Alors, naturellement, étant donné que nous avions à l'ambassade à Paris un diplomate de leur opposition, ils avaient beau jeu de me dire, mais enfin, vous dites que vous voulez parler avec nous et en même temps, notre ambassade d'Afghanistan à Paris, ce sont nos ennemis. Je disais, mais vous voyez bien que nous sommes désireux de vous parler. Nous parlons à toutes les parties. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui, etc. Bon, ce sont des arguties. N'empêche qu'on y arrive et que ce qui est important, c'est pas tellement comment on le fait, c'est d'y arriver.
Et face à ce type de situation, alors je vais poser la question à Frédéric Ancel. Comment est-ce que on peut imaginer que les talibans vont réagir? Est-ce que eux, parce qu'il y a la position de la communauté internationale, il y a la position des talibans aussi, ils sont les deux dans l'échange. Il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a dit que les talibans devront gagner leur légitimité. Est-ce qu'ils doivent apporter des gages au préalable et quels gages?
Oui, on peut citer Blinken, on peut citer aussi Le Drian, après tout, parce que je crois que le ministre français a dit, on verra les faits, on verra sur ce qu'ils font, non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font. On en revient un petit peu au début de notre débat. Je serais assez d'accord avec ça. De toute façon, a-t-on le choix d'adopter une autre position? Parce que si on adopte la position consistant à dire, bienvenue, vous avez conquis le pays, vous étiez les plus forts, même si vous êtes extraordinairement violents, c'est pas grave, nous, on fait du business, ça, c'est pas possible. Parce qu'on renonce à nos valeurs, ça a été très bien dit.
Et ne pas leur parler, c'est pas possible.
Voilà, ne leur parler du tout. Le vrai problème, c'est que si vous ne leur parlez pas du tout, alors qu'objectivement, ils sont au pouvoir, c'est la population qui va trinquer.
En même temps, ils sont soumis, comme tout pays, les talibans, aux obligations internationales de base, respect des droits humains, interdiction du recours à la force, renoncement au terrorisme. Est-ce qu'ils remplissent ces critères-là aujourd'hui? Alors,
officiellement, ils sont soumis à tout cela. Il y a un nombre, il y a 193 États reconnus à l'ONU. Aujourd'hui, je pense qu'on serait bien en peine de trouver, je ne veux pas exagérer, plus de 100 États correspondant ou répondant en tout cas à cette exigence formelle, non seulement de la Charte des Nations Unies, mais alors je vous passe la Convention sur la prévention et la répression des génocides.
Ce sont des grands
principes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir dessus. Et ce n'est vraiment pas mon langage, et ça ne l'a jamais été. Mais moi, je prône une géopolitique à visage humain. Donc, je pense qu'il faut pouvoir exercer des pressions. Alors, quel type de pression? Aujourd'hui, on sait manifestement que les talibans ne pourront pas, comme je le disais tout à l'heure, assurer une existence à minima, je parle même pas de confort, mais simplement la survie d'une partie en tout cas de leur population, sans échanger, et avant même d'échanger, sans recevoir des aides internationales. Ça, c'est une certitude, oui. Et ils le savent parfaitement. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on peut effectivement...
Il manque cruellement de fonds aujourd'hui, quoi, clairement.
Parce que les fonds pour l'instant sont quasiment tous gelés.
Il faut être conscient aussi du
Jean
fait...
Berto, et après Frédéric Joly qui veut réagir.
Du fait que les talibans sont très demandeurs de cette reconnaissance internationale. Ils l'étaient lorsqu'ils ont pris le pouvoir la première fois, où c'était un leitmotiv de leur réclamation. Ils ne comprenaient pas pourquoi on ne voulait pas les reconnaître. Ils avaient du mal à le concevoir intellectuellement.
Le fait qu'il y ait une deuxième fois justifie d'autant plus, selon vous,
oui.
Peut-être,
c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui a profondément changé entre la première époque et celle-ci, c'est qu'à l'époque, il y avait un autre pouvoir qui prétendait représenter l'Afghanistan, qui était l'Alliance du Nord, les gens... où il y avait le commandant Massoud, Dostum, etc. Aujourd'hui, la guerre est finie. Et les talibans sont les maîtres de l'ensemble du pays. Tout le pays est sous leur contrôle.
Frédéric Joly, notre réalisateur, me dit que vous souhaitez réagir.
Non, je voulais aussi souligner le fait que le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, c'est la seule organisation humanitaire au monde qui dispose d'un mandat que lui a confié les États partis aux conventions de Genève, ces textes de droit international qui protègent les victimes dans la guerre. Et donc, à ce titre, le CICR a aussi un statut diplomatique qui lui permet de parler non seulement avec les combattants ou au plus près du terrain, mais aussi avec d'autres puissances alliées, etc. Enfin, pour développer une diplomatie humanitaire qui va lui permettre de pouvoir mieux accéder aux victimes. Donc, mécanismes.
Concrètement, c'est quoi une diplomatie humanitaire? Pour bien comprendre, c'est quoi?
La diplomatie humanitaire, c'est tout simplement pour avoir l'assentiment de tous qu'un espace humanitaire est nécessaire et pour nous permettre de travailler, pouvoir accéder aux victimes, pour rentrer dans une prison. Si vous n'avez pas l'autorisation de rentrer dans la prison, vous ne rentrerez pas. Or, le CICR suit 1 million de prisonniers à travers la planète, donc c'est une négociation permanente pour pouvoir rentrer dans la prison et pour pouvoir la visiter selon nos propres critères. Eh bien, cette règle-là, la prison est assez illustrative finalement de toutes les autres négociations qu'on peut être amené à conduire pour passer des lignes de front, atteindre tel ou tel, je ne sais pas, des déplacés par exemple. Mais par exemple, le président du CICR bénéficie d'un statut diplomatique. Le CICR est une organisation très particulière, de droit privé suisse à l'origine, mais qui a reçu mandat de tous les États partis aux conventions de Genève, 196 aujourd'hui, et tous ces États se sont engagés à faire respecter le droit humanitaire. Donc sur cette base-là, le président du CICR, qui s'est rendu à Kaboul il y a 3 semaines, par exemple, qui a rencontré les nouvelles autorités afghanes, eh bien, a développé aussi à sa façon et à haut niveau cette diplomatie humanitaire qui ensuite est prise en relais par les gens sur le terrain. Bref, tout ça pour montrer qu'il y a beaucoup de strates, beaucoup de leviers que l'on essaye de pousser de telle sorte que l'espace humanitaire puisse se libérer le mieux possible dans un contexte d'Afghanistan où les besoins demeurent de toute façon colossaux et qu'il faudra bien des réponses politiques au drame qui touche actuellement et depuis des années la population afghane.
Et évidemment, la diplomatie humanitaire que vous avez brillamment soulevée doit aller de pair avec la diplomatie politique, comme vous le dites. Frédéric Ancel.
Oui, je voudrais ajouter que l'une des variables explicatives de la relative prudence ou du relatif pragmatisme affiché, en tout cas jusqu'à présent, par les talibans, c'est quand même le phénomène Al-Qaïda, c'est-à-dire un phénomène djihadiste. Les talibans ne sont pas des djihadistes, ce sont des nationalistes, des fondamentalistes nationalistes. En tout cas, leur dimension politique et leurs objectifs s'inscrivent assez spécifiquement dans l'Afghanistan, le Pakistan peut-être aussi, mais c'est un cas un petit peu à part. Au fond, de 1996 à 2001, les Américains s'accommodaient relativement bien tout de même des talibans. Il a fallu que Al-Qaïda frappe le 11 septembre et que les talibans, qui d'ailleurs étaient relativement divisés à l'époque, je parle sous contrôle de l'ambassadeur Berthaud, finalement refusent de livrer Al-Qaïda aux Américains. Et regardez ce qui s'est produit lors du retrait calamiteux des Américains et des Occidentaux de Kaboul. Le nouveau régime, enfin, qui était déjà quasiment en place, a subi son premier attentat. Je pense qu'on peut considérer que ce sont absolument les talibans qui ont subi cet attentat davantage au fond que les Américains qui de toute façon partaient. Donc politiquement c'était fini. Mieux que ça, c'était même les Américains qui dès le mois de janvier 2021 avaient discuté à Doha au Qatar directement avec les talibans en leur donnant leur propre date de départ. Donc cet attentat, il a visé surtout en réalité les talibans. Et on a là, si vous voulez, deux conceptions de l'islam ou de l'islamisme radical qui en réalité s'opposent dorénavant de manière extrêmement forte, et les talibans vont devoir gérer ce problème-là. Et je vous dirais que les Occidentaux, eux, ce qu'ils ont subi dans leur chair, et pas seulement les Occidentaux bien évidemment, depuis 20 ans, c'est pas tellement les talibans. Ces talibans ont une politique, à mon sens, sur le plan humanitaire, calamiteuse, on l'a dit tout à l'heure, mais en Afghanistan. Mais ce que le monde entier craint, c'est évidemment le djihadisme d'Al-Qaïda et dans une large mesure également aussi, bien sûr, celui de Daesh.
Et évidemment, il y a ce risque-là avec cette prise de contrôle des talibans. En tout cas, les conséquences, comme vous l'avez bien souligné, Frédéric Ancel. C'est déjà la fin de ce débat. Merci, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Merci, Jean-Yves Berthaud, conseiller politique de la mission spéciale de l'ONU en Afghanistan en 97 et ancien chef de la mission diplomatique française à Kaboul de 98 à 2001. Et merci Frédéric Joly, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en France. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Autour de